Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de retrouver François Malabave pour un nouveau numéro de Jean de Manosque. Bonjour François.
Oui, bonjour Agathe et bonjour à tous. Bienvenue dans Jean de Manosque, l'émission consacrée à Jean Giono. Au sommaire de ce 41e numéro, nous plongerons dans la revue Giono numéro 8 qui vient tout juste de sortir. Notre invité, le graphiste Alain Bauer, qui assure la composition et la mise en page de la revue. Et bien sûr, notre complice de Jean de Manosque, Jacques Ménie, avec qui nous feuilletterons cette belle revue. Nous entendrons aussi des lettres de guerre signées du soldat Giono. Nous écouterons aussi Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature 2010, qui a fait une visite émouvante au Paraïs et au centre Giono en octobre dernier. Puis bien sûr, nous entendrons Jean Giono dans la suite du récit de l'ermite de Saint-Pancras. Nous sommes à Manosque et vous souhaitons la bienvenue dans ce 41e numéro de Jean de Manosque. J'ai le plaisir d'accueillir notre ami Jacques Ménie, président de l'association des amis de Jean Giono. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
41e numéro déjà de Jean de Manosque et avec en plus un invité que j'ai grand plaisir à accueillir, c'est le graphiste Alain Bauer qui s'occupe de tout simplement mettre en page cette magnifique revue Giono. Bonjour Alain.
Bonjour François.
Ravi de vous accueillir. Jacques, ce huitième numéro de la revue Giono pour l'année 2014-2015, c'est un encore un beau pavé.
Oui, c'est un beau pavé parce que tout simplement nous avons pris la décision de publier l'intégrale de la correspondance retrouvée de Jean Giono pendant la guerre de 1914, correspondance adressée à ses parents. Donc là, il n'y a pas tout, bien sûr, dans ce premier numéro, mais il y a quand même déjà 120 pages de lettres, donc adressées à ses parents, plus quelques lettres intéressantes de ses oncles, les frères de sa mère qui étaient eux-mêmes au front et qui ont été retrouvés. Il nous manque malheureusement au moins autant de lettres. J'estime qu'il a dû écrire plus d'un millier de lettres pendant la guerre. Nous n'avons pas la lettre à ses amis de Manosquin, Louis David, Ludovic Ariès, nous n'avons pas les lettres à sa future épouse, Élise, nous n'avons pas les lettres à sa cousine Fernande, à qui il écrivait très régulièrement. Donc il nous manque un certain nombre de lettres, mais là on a quand même un gros ensemble.
Est-ce qu'on peut espérer, Jacques, un jour retrouver ces lettres?
Si on ne les a pas retrouvées au bout d'un siècle, je doute fort qu'elles puissent être retrouvées. Celles-ci ont été conservées par les parents de Giono, qui les a lui-même reprises ensuite en garde, qui les a conservées. Et c'est même miraculeux qu'un tel ensemble soit arrivé jusqu'à nous. Hein. C'est quand même... Mais c'est très très intéressant comme ensemble, parce que on sait que Giono écrivait à ses parents, il l'a dit, répété, pour essentiellement les rassurer. Alors, on peut trouver à ces lettres un caractère répétitif, je vous aime, je vous embrasse, tout va bien, il les enduit de bonnes paroles pour les rassurer, mais en filigrane, la guerre est là tout le temps, et finalement, cette façon de ne pas parler de la guerre dans ses lettres est tout à fait passionnante parce qu'elle apparaît malgré tout en creux et on voit comment finalement, comme il va le faire peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale d'une autre manière, il y a une sorte de négation du danger, de négation de l'horreur, de refus, de construction finalement d'un autre monde qui est déjà finalement la technique du romancier Giono qui finalement remplace le réel par une autre vision, la sienne, qui est complètement décalée et qui est finalement celle dans laquelle il se sent le mieux, il se sent le plus à l'aise, c'est le monde réinventé.
Jacques, la question des lettres en littérature, c'est toujours assez problématique parce que les lettres, la plupart du temps, ne sont pas faites pour être publiées. Elles dévoilent parfois des aspects très intimes des personnes et qui nous aident à comprendre les œuvres des écrivains, en l'occurrence ici Jean Giono. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu voyeur à publier des lettres comme ça, c'est assez intime, d'un fils à ses parents pendant la guerre, même si ce fils s'appelait Jean Giono?
Je pense que ce n'est pas de l'ordre de l'intime, cette correspondance. C'est plutôt de l'ordre du personnage Giono qui est en construction. Donc en ça, ça nous intéresse. On voit déjà comment son caractère, comment ce qu'il appellera plus tard le portrait de l'artiste par lui-même, qui est le vrai sujet de son œuvre, se dessine. On a un portrait qui en filigrane se forme là. On découvre un Giono très soucieux, par exemple, de son vêtement. Qui se fait même faire un costume militaire, un uniforme par le tailleur de Manosque, qui se fait faire des chaussures confortables par son père cordonnier, qui revient sans arrêt sur sa tenue vestimentaire, y compris quand il touche son premier véritable uniforme en septembre 1915. Là, il est très fier de lui. On découvre un Giono déjà très très sollicité par l'agent féminine, comme il dit, et très sensible aux rencontres féminines. Et Dieu sait si pendant la guerre il y en a eu aussi.
Il était simple soldat, Jacques.
Oui, absolument. Et puis un Giono très préoccupé de toutes les questions de nourriture et de gourmandise, qui confirme bien ce que nous a dit Sylvie Giono depuis quelque temps. Donc c'était un simple soldat. Il est parti au début de l'année 1915. Il avait d'abord été ajourné pour des raisons physiques, des raisons de santé. Et puis, après l'hécatombe des premiers mois de la guerre, donc entre août et décembre 14, on a commencé à plonger, à recruter comme ça dans la masse des ajournés. Il y en avait quand même pas mal. Et d'abord, il suit une formation. Et il n'est pas incorporé tout de suite. Il est recruté, mais pas incorporé. C'est-à-dire qu'il va suivre une formation et très vite être dirigé, ou accepter d'être dirigé, vers les transmissions. Télégraphe, téléphone, radio plus tard, etc. Donc pendant toute la guerre, il va connaître des mises à niveau en fonction de l'évolution des techniques. Il ne faut pas oublier que la guerre de 1914-1918 est la première où les transmissions vont jouer un rôle essentiel. Et donc, il va faire son régiment dans la radio, la téléphonie. Au tout début, pendant cette période de formation, qui se passe en grande partie dans la Drôme, aussi un peu dans l'Isère, à Montmélian et à Briançon, il a des ambitions d'officier. Il se présentera jusque presque fin 1916 comme élève aspirant. Mais il ne fera sa guerre que comme second de classe, toute la guerre. C'est une des curiosités qu'on découvre aussi dans cette correspondance. Alors pourquoi vouloir devenir officier ? Sans doute parce que, alors il se présente tout à fait comme un jeune homme très peu patriotard, pas du tout, la fibre patriotique chez lui, ça ne vibre pas très, très fort, contrairement à certains de ses copains manosquins qui laisseront leur vie à la guerre, comme Louis David ou Battarel. Raoul Battarel, il imagine que être sous-officier ou officier, c'est peut-être déjà une planque. Bon, il cherche les planques. Il a aussi une rivalité avec son copain Battarel, qui était au collège avec lui. Il se bagarrait déjà pour la première place en composition française, et là, ça va être aussi pour peut-être se retrouver à Saint-Cyr. Alors, Giono, le futur antimilitariste, pacifiste, etc., c'est assez amusant et assez curieux de voir toutes ses ambitions d'officier se manifester à cette période.
En fait, c'est une personnalité en construction.
C'est, je pense, à quoi on assiste, et surtout quand on aura l'intégralité des lettres, je pense que ça va courir sur au moins deux ou trois prochains numéros de la revue Giono. On verra comment la personnalité se construit et mûrit. Il part, c'est un jeune homme encore tout à fait fantaisiste, joyeux, etc. On va voir la gravité gagner.
Est-ce que l'ambiance générale, justement, de cette à Berlin, dans trois semaines c'est fini, etc., tout ça avait un poids sur Giono?
À Berlin, non, je vous dis, il était très très peu cocardier, mais par contre, il est, comme tout le monde, convaincu que ça va être fini dans les trois mois qui viennent, hein, ça. Et comme il est très déconnecté des réalités du front, on peut même dire jusqu'en août 1916, parce que son premier vrai contact, on a longtemps dit que c'était en juin, en réalité c'était en août, à Verdun en 1916, là il est au feu. Mais jusqu'à ce moment-là, ça fait quand même la guerre à 2 ans. Il suit l'actualité, mais la violence, l'horreur du front, il ne la connaîtra qu'en août 1916. C'est là où, comme célèbre formule de Céline dans Voyage au bout de la nuit, il ne sera enfin plus puceau de l'horreur.
On va écouter une première lettre de Jean Giraudoux qui a été écrite pendant cette période, Jacques, et nous reparlerons évidemment de ces lettres à l'occasion d'un spectacle qui a lieu ce soir à Gréoux-les-Bains. C'est le comédien Lélio Ploton qui lit cette lettre. C'est une lettre particulière que vous avez choisie.
J'ai pris les premières lettres, la période encore insouciante où il est dans la Drôme et à Briançon, et la première lettre qu'il écrit après avoir été définitivement incorporé le 8 septembre 1915. Il a repassé un conseil de révision et là il a été pris. Et donc c'est des lettres qui ont été lues au moment des correspondances de Manosque dans les Jardins du Paraïs à l'occasion de la lecture maintenant devenue presque rituelle et très suivie, et de plus en plus suivie, il y avait 120 personnes cette année, des lettres de Giraudoux que nous lisons dans les Jardins du Paraïs au moment des correspondances. Voilà.
Giraudoux lu par Lélio Ploton, on se retrouve tout de suite après.
Les Barquets, Montségur, le 15 mars 1915. Mon cher vieux papa et maman chérie, aujourd'hui, la journée s'annonce admirable. Les arbres sont couverts de feuilles et de fleurs, et la végétation est beaucoup plus avancée qu'à Manosque. Nous sommes dans une petite chambre de ferme. La porte est tournée vers l'ouest, et la fenêtre est au sud. Par la porte ouverte, nous voyons déjeuner, des chênes verts, et la montagne toute proche. Par la porte, par la fenêtre, nous voyons la plaine du haut comtat vénessin couverte de prairies et de champs de blé, entrecoupée de longues files de cyprès pour empêcher le mistral. Au milieu d'elle se dresse la butte de Montségur, toute proche, à 300 mètres. Les Barquets est le nom d'un petit hameau de Montségur, à 200 ou 300 mètres du village, au flanc d'une chaîne de collines qui, de l'autre côté, à 5 ou 6 kilomètres, descend en pente douce sur la vallée du Rhône. Il est formé de quelques maisons de campagne, et nous sommes pour le moment mieux qu'à Richeranche. La guerre sera bientôt finie. C'est un des derniers coups. Mon cher papa et ma petite maman, si vous voulez que je sois tranquille et bien content, écrivez-moi que vous ne vous faites pas du mauvais sang sur mon compte. Figurez-vous que ma vie se passe à rire, à chahuter, à lire, et jamais à être malheureux, et que rien ne me gâte plus ma joie que lorsque je me dis « Tu es content et joyeux ». Mais ils ne te voient pas. Ils se figurent que tu es malheureux, et ils sont inquiets. Ah, si vous pouviez me voir. Je sais que c'est surtout parce que je vous manque, mais allez, je reviendrai plus tôt que ce que vous croyez. Et voilà, Giraudoux, notre honorable concitoyen, comme le dit la dépêche, qui est bien tranquille au Barquet, et qui, malgré qu'il soit loin de vous, préfère être là, et ne pas prêter au cancan des manosquins et manosquines. Et après la guerre, on n'aura rien à lui reprocher, si ce n'est de trop aimer son vieux papa et sa petite maman, et de rester toujours avec eux. Grosse caresse du poilu à mes deux chéris, Giraudoux. Briançon, le 9 mai 1915. Je suis proposé pour caporal. Et voilà, je crois ce qu'on va faire. Je vais sans doute aller instruire la classe 17 à Richeranche comme caporal. Ensuite, je monterai peut-être à l'arrière du front comme sergent. Et au mois de juillet, j'entrerai à Saint-Cyr, d'où j'espère bien sortir aspirant. J'ai été, pendant tout le temps que j'ai resté à Montmélian, très bien vu de tous les officiers qui ne confiaient qu'à moi toutes les missions difficiles. Et je compte me faire attacher auprès du commandant Autier en qualité d'observateur, ce que facilitera ma qualité de téléphoniste breveté. Je suis bien coté par le général, et j'espère que maman a lu avec fierté la note que je vous citais dans une de mes précédentes lettres et qui est portée sur mon livret matricule, 16 en pratique, 17 en théorie. Car il ne faut pas croire que c'est peu de chose que de s'entendre dire qu'on peut faire un excellent chef de section. Ce sont des notes qui, une fois aspirant, compte beaucoup pour être nommé sous-lieutenant. D'ailleurs, je vous cite ici une parole de mon capitaine qui disait en parlant de moi « Il serait dommage que Giraudoux ne soit pas nommé sous-lieutenant au front, car il y rendra d'immenses services. » Le printemps était magnifique à Montmélian. Mais ici, à Briançon, c'est encore l'hiver. La neige est à peine à 300 mètres de nous. Il y a tout juste des bourgeons aux branches et pas encore de feuilles. Et il y fait un froid. Briançon, le 10 septembre 1915. Voilà, ça marche. J'ai quitté l'allure de bleu que je conservais, et si tu me voyais maintenant, tu jurerais que j'ai été soldat toute ma vie. Je vais te décrire le costume dans lequel je suis. Je reviens de l'exercice. Un pantalon de treillis et une veste idem, tout neuf. Des molletières et mes souliers pour lesquels j'embrasse papa car je vois les souffrances des autres. Pour compléter le costume, un béret artistiquement campé sur le coin de l'oreille. Je te prie de croire que je dégote. Une chose qui vous fera plaisir, c'est que la vie de caserne est très bonne et pas dure du tout. Nous avons un sergent, vieux, avec la barbe comme papa toute blanche. Il nous parle comme à ses enfants. En arrivant, j'ai mangé de suite à la gamelle pour m'habituer. Elle est très bonne. Cependant, tu sais si je suis délicat. Tout est fait très proprement. Et les lits, paillasses sur une planche par terre, n'ont pas de punaise. Oui, monsieur, pas de punaise. Hier soir, cependant, quand le soleil déclina et que subitement le même crépuscule que là-bas, à Manosque, embruma la ville, j'ai senti, malgré toute ma philosophie, l'immense regret de n'avoir plus vos caresses. Je voyais pleurer autour de moi. Mais j'ai conservé l'orgueil d'avoir les yeux secs, malgré les sanglots qui me montaient à moi aussi à la gorge. Je vous voyais, mes deux pauvres vieux chéris, tout seuls à vous regarder dans la chambre sans me voir auprès de vous. Je sais combien je suis nécessaire à votre vieillesse, et les sanglots étaient pour vous, pas pour moi, car j'ai la volonté nécessaire pour surmonter toutes les difficultés. D'ailleurs, n'ai-je pas le souvenir lointain, mais cher néanmoins, de mes deux aïeuls? Et je sais qu'ils ne seraient pas contents si j'étais triste. Ce matin, la vie est toute rose. Je suis allé à l'exercice et tout marche bien. Je suis heureux et n'ai qu'un souci, c'est de vous deviner triste. Souriez. Souriez, cher papa et chère maman. Montrez-vous à la hauteur, et si vous êtes bien sage, si vous êtes gai, eh bien, je vous écrirai à chacun une lettre de 8 pages dimanche. Votre fiston qui vous aime, Giono. Montségur, le 11 décembre 1915. Je suis depuis 4 jours téléphoniste. Remarquez que ce n'est pas télégraphiste, il y a une grande différence. Avec mon nouvel emploi, je ne vais plus à l'exercice. Je suis tranquille comme un coq en pâte. J'ai 2 heures de travail le matin et autant le soir, ce n'est pas énorme. Quand il fait beau, nous sommes 4 et un caporal, poser des lignes de téléphone volant pour nous amuser. Nous faisons une petite conversation, puis nous défaisons la ligne et nous rentrons. Et le plus fort, c'est que je fais un stage pour être téléphoniste du commandant. Mais il me tarde d'aller vous voir, pour vous en dire plus long. Je n'ai plus de sac, plus de fusil, rien que la baïonnette et un revolver. C'est très commode. C'est toujours autant d'attraper en attendant qu'on court. Le capitaine nous fait des cours d'histoire, de géographie, et je n'ai plus besoin de livres. Il a mis les siens à notre disposition. Enfin, je n'ai plus rien du soldat. J'ai l'air d'un bourgeois. Quand je vais le matin à 9h, comme au comptoir, au téléphone, avec ma petite cravache en bambou et mon revolver en bandoulière. Tranquille, comme Baptiste.
Un soldat dans l'univers de 14-18, tranquille comme Baptiste, c'est Jean Giono, Jacques.
Oui, ce qui est intéressant dans ces lettres, surtout dans cette première partie qui est dans la revue Genot numéro 8, c'est-à-dire la période de formation, c'est qu'il y a énormément d'allusions et de noms qui sont cités, de Manosquin, de son âge. On a longtemps cru et dit que Genot était un peu isolé, solitaire. On s'aperçoit qu'en réalité, il connaissait absolument tout le monde. Et que régulièrement, comme c'était, il était dans un régiment qui était constitué de recrues du Sud-Est, hein, et il y en avait beaucoup qui étaient de Valensol, d'Oraison, de Manos. Il les connaît tous et il les retrouve au front et il envoie des nouvelles aussi, ou il demande des nouvelles de ceux qui sont revenus à Manos, en permission, à ses parents. Donc c'est très intéressant de suivre aussi toute cette vie des autres soldats, enfin de Manos. Et je me suis beaucoup servi pour documenter ça dans les notes qui sont en bas de page de cette correspondance dans la revue, du registre matricule qui est aux archives départementales et qui est numérisé, auquel on a accès par internet et qui permet de, en effet, de voir, il dit mais un tel a-t-il été blessé, et le registre matricule nous informe en effet que dans la fameuse bataille du mois d'août devant le fort de Vaux où Genot a été engagé pour la première fois vraiment violemment au feu, il y avait un autre Manosquin qu'il connaissait et qu'il avait perdu de vue et dont il va demander des nouvelles et dont il aura des nouvelles, etc. Donc c'est plus large que simplement une simple aventure individuelle, au moins pendant ces premiers mois de la guerre.
On aura une deuxième lecture de lettres de Genot à la fin de cette émission. Revenons à la revue Genot, ce numéro 8, Jacques, avec beaucoup de choses particulièrement passionnantes dans cette revue. Avant de parler des images, parlons des études et des beaux textes qui sont écrits et des études critiques, notamment, je pense à celle d'Alain Tissu sur le Grand Troupeau, Christian Morzewski, l'homme qui plantait des arbres, Édouard Chechely qui était présent cet été pendant les rencontres Genot ici à Manosque. Enfin bref, là aussi on a de quoi se nourrir si on aime l'œuvre de Genot.
Ce numéro, c'est pas le cas de tous les numéros, est quand même assez fortement thématique, hein, autour de la Grande Guerre et du pacifisme de Genot qui en est sorti, qui en a découlé. En général, la revue Genot est fortement marquée, colorée par sa thématique, en tout cas par le thème des rencontres. Et donc là, on est dans le droit fil des rencontres Genot de cet été. Genot revient de guerre. Et la plupart des études critiques sont des conférences qui ont été prononcées par les
participants,
les copains, amis, spécialistes de Genot qui ont participé aux rencontres. L'étude de réception, ce qui est dire l'étude des critiques de l'époque, c'est évidemment sur Le Grand Troupeau, le grand roman de guerre de Genot, longtemps méconnu même par le public et par l'histoire littéraire, et qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands livres, certainement inspiré, des plus grands romans inspirés par la guerre de 14, mais très différent du reste de la production romanesque sur 14. Et les belles éditions, pourquoi Recherche de la pureté? Parce que c'est le dernier grand texte pacifiste de Genot en 1939, en préface au carnet de Moleskine de son ami Lucien Jacques, et que, à l'initiative de Pierre Berger, Bernard Buffet en a fait une édition illustrée en 1955. Donc on est toujours dans la thématique, bien sûr ces lettres de guerre et quelques textes courts, totalement inédits ou oubliés, deux textes qui ont trait en effet à la guerre et au retour de la guerre, Le jour baisse, les obus sifflent.
Oui, c'est une belle nouvelle.
Petite
en plus,
nouvelle, hein. Oui, assez extraordinaire. Tout ça retrouvé dans des papiers que Genot, des dactylographies de papier que Genot a fait faire, donc et a visé, et c'est validé par lui, dans les années 50. Et puis on continue à publier le journal de Genot dans ses carnets de travail. Là, c'est les années 57-58. Qui suivent la réalisation du film L'eau vive, qui suivent la rédaction du Bonheur fou et qui vont bientôt s'engager dans la rédaction du Désastre de Pavie, récit de bataille. Et là, on a aussi une très très belle très bel article qui a donné d'abord une conférence cet été de Alain Morello qui sur Genot, peintre de bataille, car Genot le pacifiste a aussi été un grand descripteur de bataille, mais des batailles du passé, non pas des batailles modernes.
Dans cette revue, Jacques, il y a aussi beaucoup d'iconographie. On va en venir avec Alain Bauer. Vous avez parlé de Bernard Buffet, bien sûr. Il y a des reproductions de Bernard Buffet qui sont magnifiques. Et puis, il y a ces photos superbes que l'on doit à Denis Lubioda et à sa dynamique. Denis, qu'on avait reçu ici même dans un numéro, et qui est une exposition un petit peu particulière. La fréquentation et l'influence de l'œuvre de Giono pour des photographes. Et des photographes de talent et qui sont pour la plupart relativement peu connus.
C'est-à-dire que c'est parti de la manifestation organisée donc par Regard Alpin, qui est l'association de Denis et Brigitte Lubioda, qui sont aussi photographes, et donc à Forest-Saint-Julien dans le Champsaur, ils ont organisé fin septembre une exposition qui répondait à une commande, c'est-à-dire que un certain nombre de photographes, ils avaient demandé d'établir une sorte de dialogue photographique avec Giono. Donc chaque photographe a fait des propositions accompagnées d'une citation prise dans l'œuvre de Giono. Et donc j'étais le président du jury de cette exposition. Et donc voilà, nous avons décidé tous ensemble de retrouver cette exposition, partiellement en tout cas, avec ses meilleures œuvres, dans le cahier photo de la revue Giono. C'est la première fois, en effet, que le cahier photo est consacré à, disons, de la photographie contemporaine, et n'est pas seulement totalement lié soit à un photographe qui a photographié Giono, comme on a eu Denise Bellon dans le premier numéro, ou Fernand Pervenchon, ou André Caspary, où là on avait des reportages complets sur Giono faits par un photographe. Là, c'est de la création contemporaine, à partir de l'œuvre de Giono, et je pense que c'est quelque chose que je continuerai à développer régulièrement en faisant appel à des photographes d'aujourd'hui qui peuvent nous faire des propositions autour de l'œuvre de Giono en termes de photographie.
C'est une très belle idée, et puis en même temps ça donne un vent de fraîcheur dans la revue qui est importante. Alain Bauer, justement, alors c'est vous qui êtes en charge de la mise en page, de la composition de cette revue. Comment ça se passe quand Jacques vient vous voir? Il vient avec une somme de documents? Comment ça se déroule?
Disons que dans le principe d'une revue, puisque on est habitué à voir ce terme lié à une forme magazine plutôt, là on est dans la revue, plutôt dans la tradition, je dirais littéraire, NRF, et qui regroupe un certain nombre d'articles, de sujets et de choses qui sont rédigées par différentes personnes. Donc en général, par rapport à la réalité des choses, disons-le, on n'a pas tout, la totalité des éléments tout de suite, dans la mesure où souvent un certain nombre de textes et d'articles ont été générés en même temps ou après les rencontres de la même année. Donc il faut un petit temps de réaction, ce qui fait que moi je reçois les éléments dont Jacques Ménie me parle. En général, Jacques a très souvent déjà une relative maîtrise du sommaire.
Il a déjà une idée précise de sa revue.
En général, c'est relativement cadré quand même. Après, bien sûr, il y a un certain nombre de petites choses qui arrivent en cours de route, puisque les articles arrivant, c'est là que le travail, je dirais, technique, le travail de fourmi commence, dans la mesure où il faut essayer d'arriver à gérer les volumes. Vous aurez pu remarquer que d'un numéro à l'autre, le volume est un petit peu différent suivant les années. Il faut arriver quand même à rester raisonnable dans le volume. Ensuite, bien entendu, il y a la façon dont les choses arrivent. Je tiens quand même à préciser que tout ce travail, c'est pas un travail uniquement à sens unique entre Jacques et moi, mais il y a aussi déjà, et cette technique a été très intéressante déjà depuis plusieurs années pour être plus efficace, il y a déjà des relectures en amont, entre autres par Michel Duchny, qui est correctrice professionnelle,
dont il faut qui est membre de notre conseil d'administration, et je sais qu'elle nous écoute, dire qu'elle fait un travail absolument remarquable. C'est une professeure de littérature qui vit à Bruxelles et qui a un sens et un goût, même je pourrais dire, de la relecture d'une efficacité extraordinaire, et qui a un œil laser qui voit à peu près tout ce qui cloche
tout de suite, ce qui va pas, quoi. Alain, donc, c'est quand même une revue avec des textes qui sont assez hermétiques quand même. Ce sont des textes universitaires.
Oh,
qui
faut
sont
pas exagérer, hermétique, François.
C'est une provocation, Jacques. Il faut l'apprendre comme ça. Et ce que je veux dire, Alain, c'est que vous apportez, vous, avec votre patte particulière, un côté plutôt attractif, en essayant de rendre ces textes de manière, en les présentant de manière très, très souple, avec une iconographie maîtrisée, avec une typographie qui est particulièrement étudiée, pour justement dire on peut avoir accès à des documents universitaires de haut vol et en même temps être attiré par ce type de documents.
Alors ça, c'est, on pose là justement les bases de ce qui se passe pour moi, pour nous, mes confrères aussi, graphistes, quand on travaille en édition. Le domaine de l'édition est un domaine un peu particulier. Dans le domaine du graphisme en général, bon, il y a des grands secteurs différents d'activité où notre rôle est assez différent, voire même radicalement opposé. Là, il s'agit pour un graphiste, je dirais, digne de ce nom, d'essayer d'être vraiment au service. Et là, on est dans une catégorie de travail, l'édition, qui est a priori, je dirais, la plus au service du contenu, contrairement à d'autres domaines où là on va apporter une dimension visible importante, comme dans la publicité, l'affiche, dans tout ce qu'on voit en communication multimédia aujourd'hui,
et qui cherche souvent à désirer, vous le savez.
Oui,
quand même.
Bien sûr. Mais enfin, disons que bon, là je parle simplement de notre tâche en tant que professionnel pour arriver à voir les choses dans un genre qui a quand même ses règles, qui a une tradition et qui doit respecter une certaine population qui va utiliser, étudier et prendre en compte le document. Donc là je reviens, bon je vais pas faire un cours même si j'ai été enseignant pendant pas mal d'années, mais disons que le plus important dans notre métier, c'est déjà de voir ce qu'on a, quel est le contenu, à qui on s'adresse. Bon, ensuite, le contenu en lui-même, personnellement, bon là je me sens un petit peu candide, bon les textes, c'est vrai que certains sont des textes savants dans la mesure où ils renvoient à de nombreuses références, mais je dirais que pour moi ça n'a pas une grosse importance. Moi ce qui m'importe essentiellement, c'est de respecter l'esprit du texte, de respecter évidemment aussi, mais là c'est un peu au troisième degré, l'esprit Giono dans ce qu'il peut avoir d'aura à respecter quelque part par rapport aux personnes et au public qui sont intéressés par l'œuvre, et puis donc ensuite d'essayer de donner un minimum d'élégance à tout ça. Il faut bien dire qu'à partir du moment où on crée une collection comme celle qui est en cours déjà depuis 8 ans, les premiers numéros ont été capitaux, très importants, puisque on
dès le départ, il faut marquer
déjà
le territoire.
Le format est l'élément capital pour décider de la publication d'un document. Dès qu'on a à peu près réussi ce format, il y a déjà une bonne part qui est gagnée. Après, bien sûr, il faut maîtriser les choses régulièrement, mais cette notion de format est très importante.
En tout cas, c'est du très beau travail, Alain. Quand on s'attaque à quelqu'un comme Giono, qui a quand même participé aux rencontres internationales de Lure avec Maximilien Vaux, qui adorait la typographie, l'imprimerie, etc., on se dit, tiens, c'est quand même un homme de lettres un peu différent.
Oui, je pense que, bon, là, je ne suis pas expert, ni savant par rapport à la personnalité de Giono. Moi, j'apprends régulièrement des choses. Je suis pas venu de la sphère littéraire pure beurre, j'allais dire. Donc, moi, j'apprends des choses régulièrement. Bon, par rapport au domaine, je dirais, de Giono en général, je crois que le plus important, c'est d'abord de penser à la destination de l'ouvrage, et je sais pas si je réponds à la question, je suis peut-être un petit peu...
Non, mais on arrive à lire entre les lignes, voilà. Et lire entre les lignes d'un graphiste, c'est déjà très, très particulier.
Non, il faut savoir que, bon, de toute façon, travailler sur un document de ce type, c'est avant tout, je dirais, être un petit peu le... J'allais dire un petit peu, faire des analogies, faire un petit peu le cuisinier par rapport au cultivateur, le cuisinier qui cherche à respecter le produit, hein, et qui va essayer de le mettre en valeur. Bon, ne rien rajouter qui risque de dénaturer les éléments, mais un petit peu les exaucer le goût, exhauster plutôt, remonter un petit peu des choses qui peuvent être éventuellement remises un peu en valeur. Mais tout ça est assez, je dirais, c'est presque un travail un petit peu ingrat, dans la mesure où on ne voit en fin de compte qu'un ensemble. Le détail qui est mon travail, qui est notre travail en tant que professionnel, c'est tout est dans le détail. Je dirais pas le diable, mais tout est dans le détail.
C'est une très belle cuisine que vous faites, mon cher ami. Et on apprécie particulièrement. Jacques, l'heure tourne, il faut qu'on écoute absolument cette chronique extraordinaire qu'on passe sur notre antenne depuis déjà 41 numéros, autrement dit la voix de Giono, et cette fois-ci c'est la suite de l'histoire de l'ermite de Saint-Pancras.
Oui, suite de l'histoire de l'assassinat de l'ermite de Saint-Pancras, raconté par Giono à Marguerite Taos Amrouche en 1954 dans des entretiens et propos, et donc cette suite commence au moment où dans les rues de Manosque se répand dimanche de 1900 la nouvelle que le frère, l'ermite de Saint-Pancras et son neveu ont été assassinés, et le petit Jean Giono grimpe dans les étages de la maison à deux pas d'ici, 14 rue Grande, annoncer à ses parents que le frère est mort.
Je dis à mon père et à ma mère, on a assassiné le frère. Et naturellement, cette nouvelle a jeté une telle perturbation que le soir, nous n'avons pas eu notre repas habituel, nous l'avons mangé avec beaucoup de calme, et que moi, couché dans mon lit, je me suis renfourné de sous mes draps, je les ai entourés autour de ma tête, et j'ai toute la nuit grelotté de peur, parce que je me demandais si ceux qui avaient assassiné le frère n'allaient pas venir. Et alors le frère avait été assassiné, on l'avait trouvé cet après-midi-là. Des gens qui se promenaient dans la campagne sans souci de l'orage et qui avaient été attrapés par les premières raies de grêle s'étaient précipités sous l'auvent de l'ermitage pour se mettre à l'abri. Et après, voyant que l'orage durait, s'était dit, nous allons voir le frère. Et moi, je cherche comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait Hermolaus. Nous allons voir le frère Hermolaus, il nous prêtera peut-être un parapluie. Et ils étaient arrivés dans une maison qui était toute bouleversée, les armoires ouvertes, le linge répandu par terre, les cruches et les pots cassés. Et on voyait bien qu'il y avait eu là une lutte et quelque chose d'assez dramatique. Et ils étaient redescendus, les gendarmes étaient montés, c'est alors qu'on avait trouvé les deux cadavres dans le puits. Mais ils avaient été assassinés la veille, par conséquent. Et on n'a jamais trouvé les assassins.
Jamais, on les a véritablement cherchés.
Mais on les a, paraît-il, cherchés. Oui, il y a eu là.
Un mystère,
ça a répandu la terreur dans tout Manosque pendant des années parce que on soupçonnait des gens. On trouvait quelquefois, certains jours, sur les murs, des inscriptions disant un tel, l'assassin du frère. Tout le monde avait très peur de ces assassins répandus dans la nature. Dans une nature où, jusqu'ici, il n'y avait eu que des sociétés musicales rivales. Une ouvrière de ma mère qui couchait à la maison me menait tous les matins à l'école, vers les 7 heures.
C'était Antonine ?
C'était Antonine, oui. Et elle était très jeune, elle avait 16 ans, moi. Elle avait à peine 16 ans. Et le matin, vers les 7 heures, en décembre, il faisait encore nuit dans les rues. Les réverbères n'éclairaient pas. Et je prenais, moi j'étais sous ma grosse pèlerine, elle avait serré sa pointe autour de son corsage, et nous partions comme ça tous les deux dans les rues, obscures, avec la sensation que les assassins étaient sur nos pas, et chaque fois que nous passions devant l'embranchement de ces grandes androns couvertes, qui étaient remplies d'ombre, nous imaginions là-dedans des quantités de gens portant couteaux, sabres, revolvers, pistolets, et qui pouvaient courir après nous et nous tuer.
Tellement ça avait frappé les imaginations.
Évidemment, tout le monde avait peur de ces assassins qui étaient en liberté.
De ces assassins du moine.
Oui.
C'était bien ça.
Oui, les assassins du frère.
Ah, du frère.
On l'appelait pas le moine, mais on l'appelait le frère. Nous arrivions alors en courant à mon école Saint-Charles. Là seulement, nous reprenions un peu nos esprits dans le couloir, dans la chaleur du couloir. Puis, au bout de ce couloir, s'ouvrait un parloir séparé de l'école elle-même par une grande grille. Dans cette grille, une petite porte par laquelle la sœur Tourière me faisait passer. Et alors Antonine disait, ma sœur, vous permettez que je reste un peu, que je m'assoie un peu là sur le banc, là, Je voudrais un peu me reposer avant de repartir, mais en réalité, c'était parce qu'Antonine crevait de peur et qu'elle ne voulait pas retourner toute seule dans ces rues que, à deux, nous venions de traverser en courant. Moi, je rentrais dans l'école. De l'autre côté de ce parloir, il y avait un grand jardin avec des buis. Le jour commençait à se lever. On nous mettait dans une salle d'études. On nous donnait un petit bol de lait. Et là, je voyais se lever le jour, mais je pensais tout le temps à ma pauvre Antonine qui se trouvait là-bas dans le parloir et qui devait se dire « Comment je vais faire pour rentrer maintenant à la maison sans courir le risque d'être assassinée en route, enfin le jour se lever ?» Et elle pouvait rentrer.
Vous aviez, s'il vous plaît, Giono, quel âge ? J'aime bien savoir.
Ah, j'avais 6 ans.
6 ans.
J'avais 6 ans. Bon. Alors voilà, tout le monde affolé. Lorsqu'enfin, le bruit court que le boulanger de notre rue avait vu l'assassin. Et ce boulanger, c'était un gros type, placide comme une jarre d'huile, mais d'huile de lampe, sans doute, parce qu'il prenait feu à la moindre étincelle. C'était en réalité un coureur de jupons. Il avait comme un bon ami la fille d'un maçon, et dont le frère était fantôme dans une ferme. Je vous expliquerai ça
fantôme,
un peu après.
Oui,
c'était son métier, oui, il était fantôme. Fantôme dans une grande ferme qu'on appelait le Valgas. Enfin, ça, c'est une parenthèse qui n'a aucun rapport avec l'histoire du frère.
Mais vous me raconterez le fantôme, quand même.
Oui, mais un soir, mon brave boulanger, qui s'appelait Brune, va à son rendez-vous. Les affaires ne marchent peut-être pas trop bien. Le fait est qu'il se trouve en retard pour rentrer à la maison, et que la Mélanie Brune était au comptoir en train de servir le pain du soir quand il rentre. « Et d'où tu viens ?» Et alors là, il était un peu pris de court. Et il lui dit « Oh, écoute, Maria, ne t'inquiète pas, il m'arrive une grosse affaire, laisse un peu ton comptoir 5 minutes et viens me donner un petit verre. » Alors la femme rentre et dit « Mais écoute, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais mon vieux, mais qu'est-ce que tu as ?» Et il lui dit « Figure-toi que je revenais de chercher du tabac, j'ai passé dans une petite rue, et sais-tu devant qui je me suis trouvé ? Devant l'assassin du frère. » Immédiatement, vous comprenez bien que la brave femme commence à sortir, va en face.
Et le répète.
Ben, va voir une amie qui était en face et qui s'appelait Delphine, et elle lui dit « Delphine, écoute, écoute, il nous arrive une affaire terrible. Tu ne sais pas ce que Justinien vient de voir. Eh bien, Justinien vient de voir l'assassin du frère. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Dit Delphine. L'assassin du frère. Delphine, c'était un personnage aussi assez curieux. Delphine était une vieille fille, très confite en dévotion, et qui ressemblait vaguement à une de ces sauterelles noires qui restent dans les champs après l'hiver, qu'on retrouve parfois au printemps engourdies dans un petit pli de terre, et qui ressortent et qui se mettent au soleil, des plis de temps en temps, une espèce de petite jambe, des plis, une espèce de petit couteau. On les voit là au soleil un peu s'étirer, et alors elle commence à redresser un peu la tête et elle tourne vers vous une petite tête minuscule avec d'énormes yeux méchants.
Et on s'en rend compte,
elle n'était pas méchante du tout, il fallait qu'elle exerce le peu de vie qu'elle avait encore, et alors elle l'exerçait comme ça, en aiguisant ses petits couteaux, en dépliant ses petites jambes, et en marchant à travers la rue, en répandant quelques petites paroles bien senties et très chrétiennes sur madame une telle, sur mademoiselle une telle, sur monsieur une telle, enfin, les petits scandales qui se passaient dans Manosque et qu'elle imaginait aussi.
Alors donc, là, elle avait ce qu'il fallait.
La voilà en présence de cette grande découverte. Justinien a vu l'assassin du frère. Immédiatement, mademoiselle Delphine devait rentrer dans sa cuisine, regarde si son lait qui est sur le feu ne va pas verser. Elle le place tranquillement, elle le met dans le placard, elle sort dard-dard, elle va voir la bouchère et elle dit « Bonjour, madame Aude, je voudrais 2 sous de mou pour mon chat. » Pendant que Madame Aude coupait les 2 sous de mou pour mon chat, Mademoiselle Delphine a pointé ses lèvres, toutes menues, toutes fines. Elle regardait à droite et à gauche et elle lui dit « Dites-moi, votre mari n'est pas là ?»« Non, lui dit Madame Aude, je suis toute seule, qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, dit-elle, je ne vous dirai rien alors parce que vous auriez peur. » De quoi, lui dit Madame Rode, qui était une grosse femme bien en chair, et qui tenait à la main un magnifique couteau à trancher les gigots. Vous vous rendez compte, elle n'avait pas peur du tout. Elle lui dit, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et lui dit, mais écoutez, voilà. Vous savez la petite rue qui est derrière la boulangerie de Bruno? Eh bien, Justinien, il vient de voir l'assassin du frère qui y est caché. Madame Rode, toutes ces affaires d'assassin, elle commence par poser son couteau et elle lui dit, nous vivons dans une drôle d'époque, mademoiselle Delphine. Cet assassin qui est là caché, moi, je suis en train de me demander si tout ça finira bien. Mais l'autre jour, j'ai vu le commissaire, il était lui-même très, très, très inquiet. Il me disait, les gendarmes ne font pas leur métier, on les a envoyés sur la route. En réalité, ces assassins dont nous connaissons parfaitement le nom sont dans Manosque, sont dans la ville. Et l'autre jour, on a vu un homme qui, avec un chiffon, effacer l'inscription qu'on a mis sur le mur, un tel l'assassin du frère. Ça, c'était pas lui l'assassin, mais c'était probablement un complice. Il y a des quantités de complices, mademoiselle Delphine. Ah, lui dit mademoiselle Delphine, ça, je suis bien de votre avis, des complices dans cette affaire, ça n'est plein. Et même, voyez-vous, pour vous dire la vérité, dit-elle, qui sait jusqu'à quel point Justinien n'y a pas trempé.
Ça, c'est superbe.
Et non, ça n'est pas superbe. C'était une petite ville, et c'est encore actuellement une petite ville avec des modifications modernes, mais c'était une petite ville qui s'ennuyait. Et vous comprenez qu'avec une aventure comme l'assassin du frère, c'était une occasion à ne pas perdre pour ne pas continuer à s'ennuyer.
Une autre manière de ne pas s'ennuyer, c'est de faire de la radio aussi. Merci Jacques de nous porter chaque émission des textes magnifiques et de ces interviews de Jean Giono. Oui, mais c'est superbe et c'est vraiment d'actualité. Une autre actualité, c'était cet été au Paraïs et au Centre Giono, un visiteur de marque, prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, est venu à Manosque.
Oui, Mario Vargas Llosa, qui nous a révélé qu'il lisait Giono depuis très très longtemps et qui avait tenu personnellement, alors qu'il était invité de la fête du livre à Aix-en-Provence, à venir à Manosque pour nous rencontrer Sylvie Giono, visiter les expositions du Centre Giono, évidemment aller au Paraïs où il a pu en plus avoir la chance de pouvoir feuilleter des manuscrits de Giono qu'on lui avait préparés, etc.
Avant d'entendre
et de voir la bibliothèque.
Oui, avant d'entendre Mario Vargas Llosa, il y a eu quand même un moment fort aussi pendant cette visite. L'éditeur Jean-Jacques Pauvert nous avait quitté quelques semaines avant, et vous avez retrouvé, vous avez exhumé un livre qu'avait envoyé Jean-Jacques Pauvert à Giono.
Je ne l'ai pas exhumé, il est dans la bibliothèque, donc je l'ai sorti de son rayon, je ne sais pas pourquoi.
C'était un hasard.
C'était un peu hasard, et j'ai ouvert devant Mario Vargas Llosa, une page. Giono, contrairement à certains de ses confrères, ne pratiquait peu la notation des livres de 0 à 10.
Il annotait beaucoup, mais il ne notait peu.
Et là, il se trouve que le texte de Pauvert sur Sade, Giono lui a mis 5 sur 20. Et donc, ça a attiré une réaction de Vargas Llosa qui a dit, et moi, parce qu'il y avait 3 livres de lui qui étaient dans la bibliothèque, et moi, les miens, sont-ils notés? Je lui ai dit, non, ni notés, ni annotés. Mais il semble avoir été lu.
La crainte de Vargas Llosa de voir une note de Giono sur sa littérature et ses écrits. En tout cas, c'est un personnage attachant et qui était complètement sous le charme de cette maison et du manuscrit que vous lui avez mis entre les mains.
Du Hussard sur le toit,
où il était absolument estomaqué. Ben, tout simplement, vous allez écouter cette interview que Mario Vargas Llosa m'a accordée au Paraïs.
Le
20 octobre dernier. Mario Vargas Llosa, que représente Jean Giono pour vous?
Ah, je crois qu'il était un grand écrivain, un des grands romanciers français modernes. Je l'ai connu quand j'étais encore jeune. La première chose que j'ai lue de lui, c'est Naissance de l'Odyssée, qui est un très beau livre, une espèce de poème en prose, n'est-ce pas, sur le passé, sur la Grèce, sur Odyssée, sur les commencements, n'est-ce pas, de la littérature de l'Occident, sur la mythologie méditerranée. Et après, j'ai lu plusieurs romans de lui et je me souviens surtout de l'impression qu'il m'a fait la lecture de L'Hussard sur les toits. Je crois que c'est un très grand roman d'aventure, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup de visiter les maisons des écrivains que j'ai lus avec admiration. Et comme je savais que Jeannot avait été si enraciné, n'est-ce pas, à Manosque, dans cette partie de la Provence, j'avais beaucoup d'envie de connaître sa maison, sa région, le monde qui l'a inspiré. Et ça a été, je dois dire, une expérience formidable, particulièrement la visite à cette maison où il est si vivant, où on peut voir les livres qu'il lisait, feuilleter les manuscrits, où sont ces histoires écrites par sa main, hein, presque sans correction. Et on voit tout de suite qu'il était un homme de famille, n'est-ce pas? Que la famille était quelque chose de très important pour lui et qu'il cherchait inspiration et chaleur dans la relation avec cette famille qui a été évidemment si important pour lui, pas seulement comme père de famille, mais aussi comme écrivain, non?
Sylvie Giono a créé une belle émotion chez vous en vous montrant le manuscrit justement du Hussard sur le toit.
Ça a été très émouvant pour moi de voir les manuscrits d'un texte que j'ai beaucoup admiré et surtout de voir la manière comme il concevait, n'est-ce pas, ces livres. Pas de plans, pas de schémas, pas de trajectoires, pas de fiches. C'est-à-dire que quand il commençait à écrire, il avait tout dans la tête déjà, qu'il avait travaillé mentalement, n'est-ce pas, son plan, et surtout de voir un manuscrit pratiquement propre, sans correction, sans réécriture. C'est un cas infréquent, n'est-ce pas, parce que pour les romanciers, ce qui est courant, c'est de faire d'abord un brouillon et après réécrire, n'est-ce pas, entièrement le roman. Et je crois que son cas, hein, d'écrire pratiquement la version définitive et le brouillon en même temps est assez extraordinaire. Alors j'ai appris beaucoup sur la manière de travailler de Jean Giono grâce à cette visite.
Et vous avez également apprécié sa bibliothèque. Vous avez dit que c'est une bibliothèque de lecteurs.
C'est ça, exactement. C'est pas la bibliothèque d'un bibliophile, comme nous a dit la dame de la maison, la fille de Giono, qui a eu la gentillesse de nous montrer cette maison. C'est la bibliothèque d'un lecteur. C'est la bibliothèque de quelqu'un qui achetait des livres pour les lire et qui parfois les remplissait de notes, n'est-ce pas, des commentaires. Et on voit que ce sont des livres qui ont été lus et parfois même relus. Alors, ça vous permet aussi d'entrer un tout petit peu plus dans l'intimité des Giono et comprendre mieux le monde qui est derrière les livres qu'il a écrits, non?
Mario Vargas Llosa, vous avez obtenu le prix Nobel de littérature en 2010. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce prix?
C'est que maintenant j'ai moins de temps pour écrire, parce que le prix Nobel vous transforme dans quelqu'un de figure publique, et alors vous êtes submergé par toutes sortes de sollicitations, et alors on doit perdre beaucoup de temps en défendant son temps pour pouvoir écrire et lire.
Un visiteur prestigieux au Paraïs en octobre, c'était Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature. Jacques, on arrive vers la fin de l'émission, il faut qu'on ait le temps d'écouter encore l'Hélio Ploton. L'actualité gironienne, s'il vous plaît.
Bien, il y a quelques publications en dehors de la revue Giono en cette fin d'année. Je voulais signaler un recueil de poèmes d'un poète qui s'appelle Jacques, c'est son pseudonyme, Jacques Vial-Bessé, qui est le pseudonyme d'Alain-Jacques Lacot, qui nous a envoyé une très belle plaquette de poèmes qui s'appelle « Sous l'étoile de Giono » aux éditions Almanar, Alain Gorius. C'est presque chaque poème est inspiré par un livre de Giono, et c'est une sorte de variation, en reprenant parfois les mots ou les expressions de Giono, comme le poème 5, « Je me souviens de l'atelier de mon père en train de coudre des souliers de cuir d'ange, de la belle frondaison qui était sa barbe, des chardonnerets dansaient dans leur cage. » c'est une critique poétique, je dirais une sorte de récit poétique d'un livre par poème. C'est très joli, c'est très beau et c'est très touchant. Un autre petit livre, petit par le volume, Le génie ordinaire de Jean Giono, qui est un essai d'un ami, Jean-Paul Clairet, qui est membre de l'association et qui est un ancien chef de service des hôpitaux psychiatriques, et qui a écrit un essai sur la croissance mentale dans l'œuvre de Giono, qui constitue, dit-il, son génie ordinaire. Je signale aussi un bel ensemble publié aux presses de la Sorbonne Nouvelle, sous la direction de Mireille Naturel, qui est une proustienne, qui s'appelle Proust Pluriel. Mais je le signale parce que j'ai eu le plaisir, à l'occasion des journées d'études dont cette publication rencontre, d'intervenir sur la maison de l'écrivain et surtout de donner un exemple de ce qu'on trouve dans la bibliothèque de Giono. On y revient toujours à cette fameuse bibliothèque, pour mieux comprendre comment Giono a lu Proust et l'importance que Proust a eu pour lui. Évidemment,
Le prix Giono aussi, Jacques.
Et le prix Giono, le prix Giono 2014, qui a été décerné donc à Fouad Laroui pour les tribulations du dernier Sigil Massy chez Julliard. C'était mi-octobre. Enfin bon, plus localement, donc à Manosque, j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait à aller voir la très belle exposition du Centre Giono Renaître sur Giono après la guerre, qui est évidemment en relation directe avec le propos de la revue et des rencontres Giono de cet été.
Ce soir, un spectacle à Gréoux-les-Bains avec Lélio Ploton qui va lire des lettres de Jean Giono. Et on va finir notre émission justement en écoutant Lélio Ploton.
Alors c'est ce soir à 20h à la salle Mistral à l'Étoile, hein, donc c'est une lecture qui s'appelle Écrit pacifiste, et c'est une lecture que Lélio Ploton donne actuellement dans l'Europe entière, d'ailleurs plus à l'étranger qu'en France. Il l'a donné en Allemagne, là il revient d'Italie, il l'a donné cet été dans les Jardins du Paraïs dans le cadre des rencontres Giono. C'est un montage d'une cinquantaine de minutes qui est constitué de deux textes, le premier et le dernier grand texte pacifiste de Giono. Nous allons entendre là le début de « Je ne peux pas oublier », écrit en 1934 pour le 20e anniversaire de la guerre, et il y a inséré quelques extraits du dernier grand texte pacifiste de Giono, « Recherche de la pureté » de 1939. Donc là nous écoutons le début de « Je ne peux pas oublier » par Lélio Ploton, et donc qui donnera l'intégrale ce soir à l'Étoile à 20h.
Gréoux-les-Bains. Merci Jacques Méni, merci Alain Bauer aussi de votre participation. À très bientôt pour un autre numéro de Jean de Manosque, Lélio Ploton.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser, et brusquement je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé, et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans dans des régiments de montagnards. Avec V, qui était mon capitaine, nous sommes à peu près les seuls survivants de la 1e-6e compagnie. Nous avons fait les Éparges, Verdun, Noyon-Saint-Quentin, le chemin des Dames, l'attaque de Pinon-Chevrillon, le Kemmel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois et 100 fois. Et 100 fois, on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, V et moi. J'aimerais qu'il lise ces lignes. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa terrasse, et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui coule en se balançant dans des bosquets de peupliers. Mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir comme moi, comme tous. Et nous subirons jusqu'à la fin. Depuis 8 jours, les corvées de soupe ne reviennent plus. Elles partent le soir à la nuit noire et c'est fini. Elles se fondent comme du sucre dans du café. Pas un homme n'est retourné. Ils ont tous été tués, absolument tous, chaque fois, tous les jours, sans aucune exception. On n'y va plus. On a faim. On a soif. On voit là-bas un mort couché par terre, pourri et plein de mouches, mais encore ceinturé de bidons et de boules de pain passées dans un fil de fer. On attend que le bombardement se calme, on rampe jusqu'à lui, on détache de son corps les boules de pain, on prend les bidons pleins. Voilà ce qu'on fait tous les jours. Depuis longtemps, il n'y a plus que ces cadavres garde-manger. On a une occasion pour demain. Une mitrailleuse qui arrivait tout à l'heure en renfort a été écrabouillée avec ses 4 servants à 20 mètres en arrière de nous. Tout à l'heure, on ira chercher les musettes de ces 4 hommes. Ils arrivaient de la batterie. Ils doivent avoir emporté à manger pour eux. Mais il ne faudrait pas que ceux qui sont à notre droite y aillent avant nous. Ils doivent guetter eux aussi de dedans leur trou. Nous guettons. L'important, c'est que les 4 soient morts. Ils le sont. Tant mieux.
Thank you.